mes capacités en permanence. J'ai tendance à procrastiner, je fais peu de compliments. D'ailleurs, souvent mon entourage me le reproche, autant de questions qui sont posées dans cet ouvrage, La confiance en soi, comment croire en vous. Bonjour docteur Frédéric Fanger.
Bonjour.
Ravi évidemment de vous retrouver dans cette émission. Un livre qui était coécrit avec Catherine Meyer, scénariste avec laquelle vous aviez déjà écrit Le Club des Anxieux qui se soigne. Il s'est illustré par Lynn Hachem. C'est de nouveau une bande dessinée. C'est peut-être un moyen aussi de rendre ça abordable à tout un chacun, parce que c'est vrai que la confiance en soi, c'est une question ô combien importante. On manque parfois de confiance en soi et surtout, on ne sait pas très bien ce qu'est la confiance en soi. Et vous allez la redéfinir, parce que la confiance en soi, ce n'est pas l'affirmation de soi ou l'estime de soi. C'est un peu différent pour vous.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a les trois concepts, en fait. L'affirmation de soi, c'est la façon dont je me comporte avec les autres. On est donc dans un contexte de relation à l'autre. L'estime de soi, c'est le jugement global que je porte sur moi-même. C'est la valeur que j'estime avoir. Et la confiance en soi, c'est ma confiance dans mes capacités. Est-ce que je suis compétent pour faire telle ou telle chose, mon travail, du sport, m'occuper de mes enfants, etc. Et je voudrais donner une précision sur cette définition de la confiance en soi, parce que souvent le grand public a tendance à penser qu'avoir confiance en soi, c'est très fort, Superman ou Superwoman, c'est pas du tout ça.
Booster la confiance en
soi. La confiance en soi, on la définit maintenant, à mon avis, on est en train de changer cette définition pour une définition qui me plaît beaucoup mieux, qui est la connaissance de ses forces et de ses faiblesses, de ses compétences et de ses limites.
C'est quelque part une question d'équilibre
comme définition, mais je pense que c'est beaucoup plus clinique et ça correspond beaucoup plus à la réalité.
Il y a cette notion d'équilibre qui est importante.
Oui, et surtout ça évite de mettre les gens dans une difficulté de quelque chose d'inaccessible, parce que sinon les gens qui manquent de confiance en eux diront mais moi je serai jamais aussi fort, je serai jamais aussi sûr de moi.
Oui. Frédéric Fanger, vous restez avec nous. Alma Laloi s'est baladée dans les rues de Bruxelles et a posé la question à toute une série de passants. Avez-vous confiance en vous? On les écoute.
J'estime que je ne suis pas hyper confiant en moi, pour plein de raisons, mais ça peut être des questions physiques, etc.
J'ai pas confiance en moi, je doute beaucoup, j'ai besoin d'être rassurée, peut-être parce que j'ai une part de moi très insécurisée. J'apprends à essayer de dépasser certaines peurs, du coup ça renforce mon estime et ma confiance en moi.
Avoir un manque de confiance en soi ou ne pas en avoir du tout, ça peut bloquer dans beaucoup de choses. La société dans laquelle on vit, où il y a beaucoup de jugement, où tout est basé sur le paraître. C'est pas toujours évident, on a toujours des doutes.
Je me fais confiance, mais j'ai pas confiance en moi. Enfin, du coup, c'est un peu comme si je distinguais l'estime de soi de la confiance en soi.
C'est être bien dans sa peau, se sentir bien déjà. Ça fait partie de la vie, il faut avoir confiance en soi, bien sûr. J'ai confiance en moi.
Dans la vie de tous les jours, parfois on n'a pas confiance en soi, on se sent moche le matin, on va baisser les yeux. Et pour moi, ça c'est pas la réelle confiance en soi, c'est juste, il y a aussi une notion d'humeur, une notion d'épreuve de la vie aussi, etc.
Pas mal de thématiques que l'on retrouve dans ces témoignages. Je me fais confiance, mais je n'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que vous répondez, docteur Frédéric Fanger, à cette intervention?
Déjà, c'est intéressant de dire « je me fais confiance à moi-même », parce que c'est quand même la base de tout. C'est-à-dire que je m'accorde une certaine valeur qui passe en limite, avec des points forts et des points faibles. Donc, ça veut dire que cette personne se connaît un petit peu, et ça, c'est déjà très bien. Mais je ne me fais pas toujours confiance, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire exactement, mais on peut envisager que ce qu'on pense dans ces cas-là, c'est qu'on n'est pas, on se sent pas compétent dans tout. Il y a des choses dans lesquelles peut-être on va pas avoir confiance en nous pour prendre la parole en public, on va pas avoir confiance en nous pour réaliser un travail de qualité parce qu'on est trop exigeant, on va pas, vous voyez? C'est vrai qu'elle distingue cette phrase, l'estime de soi, qui est savoir sa valeur, connaître notre valeur, et la confiance en soi, qui est notre capacité à agir, passer par-dessus les blocages et se donner des défis et agir.
Qu'est-ce qui fait, docteur Frédéric Fanger, que dans notre entourage ou nous-mêmes, on peut se dire, tiens, moi j'ai plutôt un capital de confiance en moi ou pas spécialement? Est-ce qu'il y a quelque part quelque chose d'héréditaire? Est-ce qu'il y a aussi toute une, dans l'éducation des points qui peuvent permettre d'avoir confiance en soi ou un peu moins confiance en soi?
Les deux, voire les trois ou les quatre. Ce que je veux dire par là, oui, il y a une part d'inné, il y a une part génétique, on a des belles études là-dessus, mais ça n'est qu'une part, on est bien d'accord. Il y a des travaux maintenant de neurosciences qui sont assez importants, qui ont réussi à localiser, et ça c'est assez étonnant, je le reconnais, le siège de la confiance en soi dans le cerveau, dans ce qu'on appelle la partie antérieure du lobe préfrontal. Et donc, on sait, avec ce que j'ai appelé des traumatismes de cours d'école il y a 30 ans, et dont on parle enfin maintenant, qui est le problème du harcèlement scolaire, extérieur qui va vous faire perdre confiance en vous. Mais après, c'est pas fini. Toute votre vie, vous allez pouvoir faire perdre confiance en vous, même si vous l'aviez. Par exemple, j'ai eu dans ma consultation beaucoup de femmes agressées sexuellement, voire violées, qui avaient perdu toute confiance en elles, dans leur sexualité, leur corps, alors qu'elles n'avaient aucun problème avant. Donc vous voyez, ça se joue sur lifetime, sur tout le long de la vie, ouais. En fait.
On va essayer de bien comprendre le processus, puisque vous l'avez dit, ça peut être inné et génétique. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'inné par rapport à la confiance en soi ?
Ce qu'on sait, c'est qu'on a des tout petits enfants, dès le plus jeune âge, très sensibles à un événement étranger, un jouet inhabituel qu'on leur présente, et qui vont avoir des réactions de stress assez inhabituelles. Ce qu'on sait, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est ce qu'on appelle la métacognition, les travaux sur la métacognition. On met des gens sous IRM, on leur donne des tâches à faire. En fait, on leur demande une tâche, peu importe laquelle, par exemple, de compter des points dans une cible. Et ce qu'on mesure, c'est pas tellement savoir s'ils ont faux ou juste, c'est qu'on va leur poser une deuxième question à chaque fois qu'ils vont répondre. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des tout petits enfants, dès le plus jeune âge, très sensibles à un événement étranger, un jouet inhabituel qu'on leur présente, et qui vont avoir des réactions de stress assez inhabituelles. Ce qu'on sait, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est ce qu'on appelle la métacognition, les travaux sur la métacognition. On met des gens sous IRM, on leur donne des tâches à faire. En fait, on leur demande une tâche, peu importe laquelle, par exemple, de compter des points dans une cible. Et ce qu'on mesure, c'est pas tellement savoir s'ils ont faux ou juste, c'est qu'on va leur poser une deuxième question à chaque fois qu'ils vont répondre, c'est est-ce que vous pensez avoir répondu juste ou faux ? Et la confiance en soi, c'est pas ceux qui ont répondu le plus juste, c'est ceux qui savent s'ils ont eu juste ou faux. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ça, c'est passionnant, parce que ça veut dire que la confiance en soi, c'est vraiment connaître mes compétences. Parce que il faut qu'on dise un mot du trop de confiance en soi, parce que toujours on parle du manque. Mais si on a trop confiance en nous, à ce moment-là, on ne connaît pas nos limites et on fait des bêtises.
Et justement, au niveau de l'éducation, qui est le deuxième point très très important, le rôle aussi de cette éducation en tant que parent, comment essayer de donner un maximum finalement de confiance à l'enfant tout au long de son processus ?
Alors, pour rester très simple, j'ai envie de rebondir sur le mot maximum, je suis pas sûr que ça soit ça la clé, un maximum de confiance. Je pense qu'il faut distinguer l'être qui est l'enfant et ce qu'il fait. Je crois qu'il faut jamais remettre en cause ce qu'on appelle l'estime de soi inconditionnelle, c'est-à-dire l'amour parental inconditionnel. J'ai eu en consultation des mères de meurtriers, elles aimaient toujours leur fils. Et Dieu sait si c'est important. Bon, ça peut choquer qu'on dise ça, mais c'est important qu'elles aiment encore leur fils. Par contre, elles détestaient le meurtre qu'il avait fait. Donc l'enfant, il va pas falloir lui dire sans arrêt, même lorsqu'il va faire pipi en plein milieu de la table ou agresser tout le monde en plein repas de famille, qu'il est parfait, il est génial. Non, dans ces moments-là, il faudra lui dire, tu sais, ton comportement, ça nous plaît pas. Par contre, à d'autres moments, quand il y aura des comportements adaptés et souhaitables, il faudra bien le renforcer positivement en disant là, par contre, c'est bien. Et il faudra surtout lui montrer que quels que soient ses comportements, qu'ils soient positifs ou négatifs, il reste un être humain estimable et que nous, ses parents, nous l'estimons quoi qu'il fasse. Ce sont des défis qui sont trop élevés pour eux. Moi, j'ai très longtemps travaillé sur le perfectionnisme et l'exigence élevée chez les gens qui manquaient de confiance en eux. Parce que quand même, depuis 35 ans que je vois des patients, c'est surtout des gens qui viennent pour manque de confiance en eux. Mais la société a changé en 35 ans, je peux vous dire. Et c'est les gens qui manquaient de confiance en eux, ils avaient souvent des exigences trop élevées. Je leur disais, écoutez, fixez-vous la barre moins haute. Mais maintenant, je vois toute une série de personnes, c'est l'inverse. Ils se fixent la barre trop haute, ils croient que tout est possible. Parce que, vous savez, il y a des tas de gens qui parlent de confiance en soi, puis qui connaissent pas grand-chose, voire qui vendent des programmes de la gonflette, la confiance en soi, hyper sûr de nous, alors ce sont des gens qui ne suivent pas des patients, et en fait ça aboutit à l'inverse, ça aboutit à des gens qui vont avoir trop confiance en eux et du coup qui ne vont pas être adaptés.
Mais comment est-ce que vous expliquez ça ?
Pour travailler dans un milieu professionnel, il faut respecter les autres, il ne faut pas vouloir à tout prix monter dessus, leur passer dessus, prendre leur poste au travail, monter en grade à leur place parce qu'on a trop confiance en nous.
Mais comment est-ce que vous expliquez justement cette évolution de la société, Frédéric Fanger ?
Ah, je l'explique pas, je la constate. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je fais beaucoup de thérapie de groupe, d'affirmation de soi, on apprend aux gens à dire les choses. L'affirmation de soi, je répète, et en fait, ça aboutit à l'inverse, ça aboutit à des gens qui vont avoir trop confiance en eux, et du coup, qui vont pas être adaptés.
Mais comment est-ce que vous expliquez ça ?
Par exemple, pour travailler dans un milieu professionnel, il faut respecter les autres. Il faut pas vouloir à tout prix monter dessus, leur passer dessus, prendre leur poste au travail, monter en grade à leur place, parce qu'on a trop confiance en nous.
Mais comment est-ce que vous expliquez, justement, cette évolution de la société, Frédéric Fanger ?
Ah, je l'explique pas, je la constate. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je fais beaucoup de thérapie de groupe, d'affirmation de soi, on apprend aux gens à dire les choses. L'affirmation de soi, je répète, encore une fois, c'est exprimer mes droits et désirs, mais en respectant l'autre. Eh bien, il y a 20 ans, quand je faisais une séance sur les demandes, parce que les gens n'osaient pas demander ce à quoi ils avaient droit, bon, ben, je leur apprenais à demander leurs droits. Et je les sortais plutôt d'une attitude passive et inhibitrice. Les gens s'écrasaient, ils ne faisaient pas voir l'endroit. Maintenant, j'ai eu des cas où, à partir du moment où on considère que notre demande est légitime, on a le droit d'imposer notre demande à l'autre, voire de tout casser pour l'obtenir. Mais ça, c'est pas de l'affirmation de soi, c'est de l'agressivité et de la violence. C'est autre chose. Et on est passé d'une société avec une prédominance de comportement passif où tout le monde était soumis. Moi, j'ai traité il y a 30 ans des femmes soumises dans les couples, des hommes soumis dans les entreprises comme c'était pas possible. Et il y en a encore. Parce que ça dépend de votre tempérament. Si vous avez un tempérament introverti, tendance à vous soumettre, ça existe encore. Mais on a une nouvelle population qui est cette population qui, au contraire, va écraser tout le monde par excès de confiance en soi.
Si je vous suis bien, docteur Frédéric Franger, il y a quand même des liens très très forts entre la confiance en soi et l'empathie.
Alors, oui, l'empathie, par définition, c'est le respect de l'autre. C'est exactement la définition du comportement affirmé.
Oui.
Si vous imposez, si vous respectez pas vos droits, ce qu'on voyait dans les années... Vous savez, l'affirmation de soi, c'est né aux États-Unis pour défendre, dans les années 60, pour défendre les minorités raciales et les premiers mouvements féministes. C'est là que c'est né. Elles sont allées voir les féministes et les minorités raciales américaines. Elles sont allées voir les psychologues californiens en leur demandant des méthodes pour s'affirmer. Donc à l'époque, c'est ce que je disais, les gens étaient passifs, ils respectaient pas leurs droits, ils s'écrasaient au lieu de faire valoir leurs droits. Après, on est passé dans un autre domaine qui a été de, au contraire, trop faire valoir nos droits sans respecter celui qui est en face et les contraintes qu'il a quand il nous refuse quelque chose avec une intolérance au refus, une intolérance à la frustration. Ça, c'est ce qu'on appelle le comportement agressif. Et le comportement affirmé, il est entre les deux. C'est-à-dire, je vais m'exprimer, je vais pas m'écraser. Il faut pas rester à s'écraser. C'est fini, ça. Heureusement qu'on en est sorti de ça. Par contre, je vais le faire en respectant l'autre. L'autre, il peut avoir une opinion différente de moi. Il a le droit. Donc, effectivement, on introduit l'empathie pour permettre cette position d'à la fois m'exprimer, l'empathie elle permet de respecter l'autre, mais il faut aussi ajouter à l'empathie l'affirmation de soi qui permet de faire valoir nos droits.
Mais le respect de l'autre il est de plus en plus difficile évidemment à maintenir quand on voit certains réseaux sociaux, quand on voit les messages qui circulent sur les réseaux sociaux où on est jugé très rapidement, on en parlait hier avec Bruno Humbert, qu'on est jugé dans l'instantanéité, on va revenir si vous le voulez bien sûr, ben justement ce que impliquent les réseaux sociaux aujourd'hui par rapport à la confiance en soi mais aussi comment et bien petit à petit et bien reprendre confiance en soi. On en parle dans quelques instants avec vous, docteur Frédéric Franger, puis on sera bien entendu attentif.